quand j'ai quitté mon emploi salarié, j'ai volontairement fait une pause, c'est-à-dire que j'avais envie de me mettre en jachère, j'avais cette expression en tête.
Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcasts, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour.
Bonjour Lanan.
Salut JP.
Lanan, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer cet échange ?
Alors, bonjour, je m'appelle Lanan, j'ai 36 ans. Je suis consultante à mon compte depuis presque 2 ans sur les questions environnementales, en particulier climatiques, et notamment sur des questions d'éducation. Et avant ça, j'ai travaillé dans le marketing digital et la data pendant 6-7 ans.
Génial, merci pour cette introduction. Alors, en tant que consultante, j'ai vu que tu avais aussi un autre métier qui est auteur ou autrice et que tu as sorti un livre très récemment autour des gestes pour réduire son empreinte carbone. J'aimerais bien commencer notre entretien par cette porte, si ça te va, que tu nous parles un petit peu de ce livre, de ce qui t'a amené à l'écrire et puis qu'on déroule peut-être un peu ton parcours de cette manière.
Mmh, ok. Oui, donc c'est un livre qui s'appelle « Sans gestes pour réduire son empreinte carbone » qui vient de sortir la semaine dernière. L'objectif, c'était de faire un guide assez pratique à l'attention du grand public qui, parfois, a vraiment envie de faire des choses, mais c'est pas vraiment par où commencer. Donc, de lui donner à la fois de l'inspiration, donc il y a la symbolique du chiffre 100 qui fait qu'on va aussi chercher dans des gestes un peu anecdotiques, parce que, pas anecdotiques, mais disons, dans des choses beaucoup plus... granulaire, on va dire, et en même temps de lui donner les informations de façon d'adulte à adulte, on va dire. Moi, j'avais envie de l'écrire comme ça, donc il y a beaucoup d'informations de contexte aussi pour dire pourquoi, en fait. C'est pas, je dis pas en fait aux gens je sais pas, pour leur donner des leçons, je leur donne des listes et avec les éléments pour lesquels qui justifient le fait qu'on dit que ça va réduire leur empreinte carbone.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir le livre entre les mains parce que tu me l'as envoyé et je l'ai lu directement quand je l'ai lu. Franchement, je le trouve absolument génial. Je ne dis pas ça de tous les livres, mais franchement, il est vraiment top, je trouve, parce que il y a beaucoup d'explications sur, pour ceux qui sont intéressés, sur en fait la dimension de l'impact que tu peux avoir. On rentre par plusieurs portes par plusieurs prismes en fait sur la manière dont on peut réduire son empreinte, que ce soit par l'alimentation, la mobilité et autres, et on voit en fait quel impact tel ou tel geste peut avoir et quel est le niveau de difficulté. Alors bien sûr, c'est jamais vraiment objectif, hein, et tu le dis bien dans le livre, mais je trouve ça intéressant en fait de se dire pas à pas, je peux mettre ça en place et puis progresser de cette manière. Et puis parfois, on se rend compte que des choses qui pour nous semblaient très simples, en fait, ont un super impact. C'est vraiment très chouette. Et puis tu vois, je baigne un peu dans ce milieu depuis un moment aussi maintenant, et j'ai appris plein de choses. Mais rien que par exemple sur l'éco-conduite. Là, je me suis toujours dit, je ne sais pas pourquoi, dans un coin de ma tête, que l'éco-conduite, c'était un truc un peu bullshit. Que voilà, on nous vendait ça en mode, oui, il faut qu'on fasse de l'éco-conduite pour toujours derrière nous dire, c'est pas grave, vous pouvez conduire vos SUV, il n'y a pas de problème. En fait, grâce à toi et au bouquin, maintenant, je sais que l'éco-conduite, en fait, ça a un vrai impact et qu'on peut même se former à ça.
Super. Ça me fait plaisir que tu dis ça. C'était le but, en fait, de donner des informations, en fait, pour que les gens choisissent aussi, parce que voilà, il y a 100 actions, on ne va pas toutes les faire du jour au lendemain, et que du coup, les gens aient toutes les billes pour pouvoir choisir. Moi-même, j'ai aussi appris des trucs parce que, en fait, bon, il y avait la plupart des choses, je les avais bien en tête. Et ensuite, à partir du moment où tu écris un livre, les recherches sont un peu plus poussées pour avoir les sources. Et donc, ça m'a permis aussi d'approfondir pas mal de choses, quoi.
Et alors, maintenant, j'aimerais te demander pourquoi en fait tu as écrit ce livre. Qu'est-ce qui t'est quel était Est-ce qu'il y avait un objectif? Est-ce que c'était un besoin? À quel moment tu t'es dit je vais écrire un bouquin pour aider les gens à réduire leur empreinte?
Alors, de façon très pragmatique, on m'a proposé d'écrire ce bouquin. Ensuite, c'est un peu plus profond que ça, parce que écrire un bouquin, c'était quelque chose que j'avais en tête. C'était quelque chose qui était une possibilité, parce que j'aime bien écrire. Après, je n'avais pas vraiment d'idée de sujet. Et ça illustre vraiment un peu une sorte de déroulé naturel des choses, ou de, je sais pas, quand on dit qu'on crée la chance ou les opportunités. Mais du coup, donc moi, comme j'ai dit au début, ça fait 2 ans que je me suis reconvertie, on va dire. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Mais donc avant ça, je travaillais pas du tout dans ce milieu. Et quand j'ai quitté mon emploi salarié, j'ai volontairement fait une pause, c'est-à-dire que j'avais envie de me mettre en jachère. J'avais cette expression en tête. Et j'avais identifié l'écologie comme un des thèmes qui m'intéressait, mais c'était pas vraiment spécialement ça que j'avais en tête. J'avais pas vraiment en tête de me mettre à mon compte. Et bref, donc je me suis rien imposé, et j'ai juste laissé venir ce qui venait, et au gré de mes envies, de ma curiosité, etc. Et de fil en aiguille, je me suis engagée dans des associations, j'ai rencontré des gens, et je me suis formée comme ça. Et ensuite, du coup, il y a eu des opportunités professionnelles de le faire. Donc, j'ai créé mon statut, etc. Et j'ai engrangé une grosse somme de connaissances, en fait. Et à ce moment-là, il y a eu cette proposition de livre. Donc, en fait, c'est une sorte de deux choses qui se rencontraient à peu près au bon moment. Donc, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, oui, bien sûr, en fait, le projet m'intéresse. Écrire un livre, oui. Sur ce sujet, oui. Et puis, il y avait aussi une autre raison qui était, si j'avais pu avoir une petite hésitation pour une raison ou pour une autre, je me suis dit, donc ce projet, il existe, et si quelqu'un d'autre l'écrit, en fait, il peut y avoir un risque qu'il ne soit pas écrit comme je l'imagine déjà. Et donc, en fait, du coup, ça m'a donné envie de le faire. Et donc, je m'explique, c'est que il y a toujours, enfin, il y a souvent une polémique quand on se penche sur la question de l'action climatique, sur la culpabilisation de l'individu, et la polémique entre l'éco-geste et l'action des pouvoirs publics ou des entreprises. Et donc, justement, j'avais envie d'utiliser ce livre pour essayer de dépasser cette opposition, en traitant des gestes qui sont plus de l'ordre de l'influence et de l'action de l'individu au sein de l'entreprise et au sein de la cité ou de la cité politique, comme un éco-geste, quoi.
D'accord. Et alors, plus sur le thème en lui-même, quand tu prends la question climatique ou même la question écologique de manière très large, pareil, il y a plusieurs portes d'entrée, on peut s'intéresser à beaucoup de choses et en fait, il y a pas mal de problèmes sous-jacents. Toi, tu as décidé de t'intéresser plus précisément à l'empreinte carbone. C'est un sujet qui est quand même un peu spécifique et peut-être un peu technique. Pourquoi celui-ci? Pourquoi est-ce que toi, ça te plaît, ça? Ou pourquoi tu penses que c'est important ou plus important, je ne sais pas.
Alors, encore une fois, le projet qui existait, c'était vraiment sur l'empreinte carbone.
OK.
Donc, c'est une des raisons. Ensuite, on va dire que ça m'arrangeait, entre guillemets, parce que justement, ça donnait déjà un périmètre bien défini. Parce qu'effectivement, on peut se dire, parfois les gens me disent, ah oui, c'est un livre pour sauver la planète. Et je dis, non. Déjà, on ne sauve pas la planète, on sauve la planète des hommes, quoi. Enfin, on sauve les conditions d'habitabilité de la planète pour les hommes. Et en plus, là, c'est pas ça, c'est l'empreinte carbone. Donc, c'est le climat, et par le prisme de l'empreinte carbone. Et au moins, comme ça, c'est assez clair. Et puis, on sait toutes les limites que ça peut avoir de ne raisonner uniquement qu'en termes d'empreinte carbone. Mais au moins, comme ça, les cadres d'analyse sont posés et j'essaye de faire des ponts avec d'autres sujets dans le livre parce qu'ils sont nécessaires et importants. Mais au moins, ça permet de cadrer et de ne pas partir dans tous les sens.
Et alors maintenant qu'on a un petit peu parlé livre et découvert un petit peu justement des bribes de ton parcours et ce qui t'y a amené, est-ce que tu peux nous parler des autres casquettes que tu as rapidement évoquées en disant que voilà, que tu es consultante indépendante, qu'est-ce que tu fais en fait en tant que consultante indépendante, et puis après on pourra discuter de comment tu en es venue là et ce que tu faisais avant.
Ok, alors je suis consultante indépendante, ça a commencé avec la fresque du climat, vraiment, de façon très simple. C'est-à-dire que j'animais des fresques du climat. J'imagine que... Est-ce qu'il faut que je dise un petit peu ce que c'est ? Des ateliers...
Tu peux le répéter brièvement. Après, c'est vrai que je pense que ceux qui découvrent le podcast peut-être ne connaissent pas, mais ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, ouais. Je pense qu'un épisode sur trois, on en parle. Donc, c'est...
Sinon, vous pouvez aller sur le site, mais c'est un atelier en 3 heures pour comprendre vraiment ce qu'est le dérèglement climatique, en gros, et pouvoir ensuite discuter des solutions. Je me suis... À partir de mon expérience d'animatrice, on m'a proposé d'animer en contexte professionnel et que c'est comme ça que je suis devenue consultante à cette époque. Déjà consultante surtout pour de l'animation. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai accompagné des entreprises un petit peu au-delà de ça, donc au passage à l'action ou alors à développer vraiment des supports de formation qui soient adaptés soit à leurs employés, soit des supports de formation tout court au sujet des questions environnementales, donc climatiques, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, dont on entend de plus en plus parler en lien avec le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, enfin les limites planétaires, quoi.
D'accord, donc c'est du consulting ou du conseil, pardon, mais vraiment orienté autour de la question de la formation.
Ouais, de la formation et j'ai envie de dire aussi du... de l'impulsion pour le changement, quoi. C'est-à-dire de donner un peu les clés, de donner les ressources, de donner des pistes, voilà. Après, c'est assez neuf, hein. Je dis que ça fait presque 2 ans, en fait, c'est passé assez vite, mon activité a eu des niveaux d'intensité plus ou moins forts, donc tout ça est assez neuf, et puis ça va, c'est un pas après l'autre, quoi. Ouais, j'ai pas l'impression non plus de tirer sur une expérience super longue pour te dire ce que je fais aujourd'hui pour l'instant.
Oui, et puis le chemin est en pleine construction et de toute façon, il évolue en permanence, j'imagine.
Exactement.
Et alors, tu disais quand même quelque chose de très intéressant et, par rapport à la fresque du climat, c'est que c'est comme ça en fait que tu as développé ton activité d'indépendante au départ, parce que l'outil fresque du climat au départ, mais tous les autres aussi, permettent en fait d'animer. Et d'animer à titre en fait professionnel également des ateliers pour des organisations.
Ouais, je sais pas ce qu'il en est trop aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque où j'ai découvert la fresque du climat, donc il y a à peu près 2 ans, c'était vraiment un outil de transition de société, parce que donc de par son contenu, mais personnel aussi. C'est-à-dire que la force aussi, c'était, et c'est sûrement encore aujourd'hui, la force de la communauté. Donc les gens qui se rencontrent et qui étaient, et beaucoup de gens comme moi, mais qui avaient peut-être 15 ans d'expérience professionnelle et qui étaient partis, 10 ans, 5 ans, 0 aussi. Il y avait aussi des jeunes diplômés qui avaient fait peut-être 6 mois de stage dans un truc et puis qui avaient tout de suite zappé le business as usual, quoi. Donc qui étaient là en train de faire des fresques et de porter cette parole et d'attendre un peu de quelle était la prochaine étape. Donc ça permettait de rencontrer ce monde et puis ensuite en plus de rencontrer du monde qui était déjà un peu plus impliqué et qui vendait des ateliers de fresques du climat en entreprise et de se lancer comme ça. Et après autour de ça, il y a plein d'autres ateliers aussi avec lesquels, complémentaires et cousins on va dire, avec ou des ressources qui m'ont permis de me former. Donc la fresque du climat, tout ce que produit le Shift Project et les bénévoles, les shifters qui sont adossés qui soutiennent plutôt et amplifient l'action du Shift Project, la communauté autour de 2 tonnes, les autres fresques aussi qui se font autour de la biodiversité, de l'océan.
Ok. Alors c'est, je pense qu'on a aujourd'hui là une image un peu à l'instant T de toi, de ta vie, de comment tu t'organises. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce que tu faisais avant Et puis bah, peut-être ce qui s'est passé pour, un, bah, pour en arriver à qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais.
Ouais, donc le moment où, ça, où j'ai commencé à changer, tu veux dire à virer de bord?
Ouais, bah alors peut-être nous expliquer un petit peu bah, brièvement ton parcours de tes, enfin, ouais. tes études, ton, dans quoi tu as commencé à travailler et puis peut-être un peu bah, ce qui a fait que tu t'es interrogé et pourquoi tu as commencé à, finalement à partir dans une autre direction.
Ouais, bah, donc moi, en fait, j'ai déjà commencé un peu à zigzaguer dans mes études, on va dire. J'ai fait un bac S, j'avais un peu hésité avec un bac L, et finalement j'ai fait un bac S. Ensuite, bah pareil, j'ai hésité entre une prépa scientifique et littéraire. Finalement, je suis partie en prépa littéraire. Et après, j'ai intégré HEC et l'école normale supérieure. Donc j'ai terminé mon cursus de, donc de management. Et puis, j'ai fait des études d'anglais, de linguistique anglaise. J'ai passé l'agrégation, tout ça. Et après, bah, j'ai voulu travailler avec des gens. Donc, j'ai pas continué donc en équipe. Parce que la recherche, ça me plaisait. La recherche en linguistique anglaise, ça me plaisait. Mais c'est, je trouvais ça un peu solitaire. Donc, j'ai voulu aller travailler en entreprise. Et à l'époque, bah, c'était aussi pas mal un peu les startups, tout ça, le digital. C'était aussi ma spécialité à HEC. Donc, j'ai intégré une jeune startup à l'époque, qui est devenue maintenant une grosse boîte avec, je crois, 200 ou 300 employés et 6 ou 7 bureaux dans le monde. Et à l'époque, c'était bah, 10 personnes dans un, sous des toits à Paris. Enfin, c'était assez... assez excitant, je pense que tu te reconnais un peu dans cette ambiance.
Ça me parle.
des gens super sympas, intelligents, qui avaient envie de créer un truc. Tu crées une offre de valeur, tu crées une équipe, une culture, une marque, etc. C'est assez grisant. C'était des années assez cool et donc j'ai passé, je crois, 6 ans là-bas. Il y a eu des pauses, etc. Mais j'ai passé 6 ans, donc c'était dans le marketing digital et la data, avec beaucoup d'anciens de Google, donc c'est dans cette ambiance qu'on peut imaginer. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, il y a eu une forme de fatigue et de lassitude. Il y a eu, il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, par contre, il y a eu une sorte de peut-être de signe avant-coureur. Il y a eu un moment où ça n'allait pas du tout. J'étais fatiguée, triste. Enfin, je pense que j'étais un peu déprimée, quoi. Et ça coïncidait avec plein de choses, et notamment, c'était après les attentats de Paris. Donc ça a joué, je pense, dans le contexte ambiant, plus des choses personnelles. Et j'arrivais pas trop. Et en fait, je me suis dit, j'y arrive pas, en fait j'ai juste envie donc qu'on me laisse tranquille. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai demandé à m'arrêter 3 mois sans solde. Et voilà, parce que en fait, je me disais, en fait, j'ai juste besoin de ça. Donc je me suis arrêtée parce que ça n'allait pas, donc pas pour une mauvaise raison entre guillemets. Et ça m'a fait vachement de bien. Je précise sans solde parce que je sais qu'il y a aussi des questions de blocage qui peuvent exister et que c'était aussi, ça l'était à ce moment-là. La question financière, on va dire, je me suis dit, mais j'avais plus du tout d'économie à cette époque-là, Et je me suis dit, mais c'est pas, il faut pas que ça m'arrête. Je sais très bien que l'argent, il va pouvoir venir j'ai montré que je pouvais en avoir, etc. Y a plein de gens qui ont de l'argent autour de moi. C'est une question de fierté de se dire que je peux pas le faire et qu'il faut que je continue à gagner de l'argent. Et donc, en fait, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai emprunté de l'argent pour tenir et j'ai remboursé après. De toute façon, après, j'avais besoin de rien pendant cette pause, quoi. J'avais pas envie de faire du shopping ou un énorme voyage. J'avais juste envie de m'arrêter et de me reposer, quoi. Ça c'était un petit moment qui m'a permis aussi de faire une pause, de me reposer, surtout de me recentrer un peu. Et donc ensuite je suis revenue. Et puis je suis restée, je pense, peut-être un an et demi avant de partir. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit, mais on pensait que tu ne reviendrais pas. Mais en fait, moi, je m'étais juste dit, j'avais besoin de me reposer. Je n'étais pas non plus prête, en fait, à partir. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'était un signe avant-coureur aussi. C'était une fatigue physique, mais finalement aussi une fatigue psychique qui jouait de toute façon. Et en fait, cette fatigue, elle est issue, je pense, d'une lassitude sur le sens, quoi. Et donc, d'accord. Ça, bah, au bout d'un moment, ça a fait que ça a mis beaucoup de temps. Hein. Quand on le raconte a posteriori, ça a l'air toujours simple. Comme ça, bah, un jour, j'ai dit, voilà, je veux partir. Et puis, mais en fait, ça met beaucoup plus de temps que ça, dans les faits.
Et sur cette question, sur cette question de sens, justement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, il n'y a pas de sens, ou il n'y a plus de sens, ou il y a moins de sens dans ce que je fais? Est-ce que c'est le fait d'être parti, en fait, dans une direction qui, après tes études, en fait, quand tu l'analyses a posteriori, ne te convenait pas? Ou est-ce que c'est vraiment le fait d'être arrivé au bout d'un chemin qui convenait à un moment donné, et qui avait du sens, mais qui, au bout d'un moment, bah, n'en avait plus, et qui t'a fait changer de route ou bifurquer?
En fait, on peut aussi poser la question, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait, par exemple? Ça serait une forme de... pour savoir... Enfin,
oui et
ça
non.
Serait une manière de...
Parce que je pense qu'on apprend tout... Alors oui, on peut la poser, hein. Après, je pense qu'on apprend toujours de ses expériences, même si c'était... C'est plus la question de savoir, en fait, est-ce que si tu t'étais posé, après tes études, par exemple, sur ces 3 mois, alors c'est difficile de... Et si, hein, toujours, mais... et que tu avais pris le temps peut-être de mieux réfléchir à qui tu es, de faire un peu un travail d'introspection à cette époque, est-ce que tu serais parti dans cette voie, et est-ce que tu aurais eu des problèmes en fait à trouver du sens dans ton activité ou pas? En fait, c'est un peu plus ça la question, je ne sais pas si c'est clair.
Oui, oui. Oui. C'est pas facile de répondre. En tout cas, la question... Enfin, justement, la question du regret, c'est une manière pour moi de répondre en me disant je regrette pas du tout ce que j'ai fait, et parce que ça me paraissait justement assez naturel à cette époque, en fait.
D'accord.
Je me suis laissée guider par des rencontres aussi, en fait, avec des gens. Et comme je disais, ouais, j'ai rencontré des gens super, je suis vachement contente d'avoir vécu ces années-là. C'est jusqu'à après, effectivement, je me suis rendu compte que, au-delà de ce qu'on crée, au bout d'un certain moment, quand tu commences à grandir, que la dynamique change, il me manquait pour me soutenir la question du sens, et notamment parce que aussi je pense que on entendait de plus en plus parler, je pense, des questions. Environnementale, parce que de toute façon on en entend parler depuis les années 70, moi, je veux dire, c'est juste non mais ouf. Donc là, pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a plus de gens qui décrochent? Ben il se passe quelque chose, et il y a un effet boule de neige probablement, mais du coup j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais
non,
dire.
Non, mais c'est une question qui est compliquée, et en fait je te demande ça parce que dans certaines interviews, en fait, j'ai des gens qui me disent finalement, au bout de 20 ans, je me suis dit, je vais retrouver mes rêves d'enfant et un petit peu qui je suis réellement, mes valeurs et me recentrer sur ce que j'aime profondément. Par rapport à une parenthèse, en fait, où tu as l'impression que tu te fais un peu aspirer par finalement un courant qui t'a amené de par tes études, les gens que tu as fréquentés, tes premières expériences, etc., qui peut être très intéressant, très motivant, et sur lequel, oui, tu ne peux pas avoir de regrets, mais tu as quand même l'impression d'un saut, en fait, où on se retrouve un petit peu qui on est réellement de l'intérieur, un peu, si tu veux, sur cette quête de sens. Donc ouais, c'était un peu dans ce sens-là. Est-ce que toi, c'est un peu ça? Tu as l'impression de te dire, finalement, cette parenthèse, finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, j'en sais rien, l'amour de la nature ou autre, ou de dire, non, en fait, j'arrivais à la fin d'un cycle et puis voilà, quoi.
Ouais, je pense qu'il y avait un truc de fin de cycle pour moi, et de trucs qui venaient un peu de loin, je pense. J'ai souvent aussi l'image un peu de... Tu sais, quand on me demande s'il y a eu un élément déclencheur, et donc je pense qu'il n'y en a pas eu, mais par contre, j'ai cette image de la tectonique des plaques, quoi, en fait, qui est un truc qui vient de très très loin, tu vois, et qui est un peu très très lent, pas très perceptible, et puis tout d'un coup, ça a cassé, quoi. Donc, tu vois, les effets, ils se voient peut-être pas, mais pour moi, c'était pas un séisme de ouf, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc qui a cassé au bout d'un moment, qui venait de loin, et puis du coup, bah, ça marchait plus, quoi, je voyais plus. Et donc, je me suis dit, aussi à ce moment-là, bah, je faisais pas mal de changements aussi dans ma vie privée. Enfin, tu vois, bon, bah, voilà, tu commences à manger moins de viande, tu commences à, tu t'intéresses un peu à la méditation, tu regardes un peu tes actes de consommation, etc. Et puis je me disais, mais je peux pas faire ça et en même temps, du lundi au vendredi soir, travailler à entretenir une machine qui veut te vendre des caleçons et des parfums, quoi, alors que t'en as pas besoin. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, tu vois, ça me devenait de plus en plus gros. En fait, il y a une question, je pense, de du supportable un peu ou de la sensibilité. Il y a un truc où on est un peu désensibilisé de plein de choses, en fait, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on devient soi-disant adulte, tu vois. On est un peu, bah ouais, il y a des trucs pas bien, mais écoute, c'est comme ça, tu vois. Oui, le système produit de l'inégalité, mais bon, tu vois, bah, c'est comme ça. Et en fait, il y a un moment où ça marche plus, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, t'es de nouveau sensible à ces trucs auxquels t'as été sensible à un moment, et on t'a appris un peu à te désensibiliser, et puis là, ça revient, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi le fait un peu de voir les années passées. Alors, j'essaie de pas trop me laisser, on va dire, enfermer par ça, mais enfin, tu vois, tu passes 30 ans et tout, puis tu te dis, mais j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai pas du tout envie d'en faire, mais là, en fait, je suis en train de faire quelque chose qui, si j'ai pas envie, si mon but dans la vie, c'est pas d'être CMO, tu vois, directeur marketing d'un grand groupe, machin, dans quelques années, je suis pas sur la bonne route, quoi, en fait. Et donc là, tu sais, c'est quoi, en fait? Mais est-ce que je me suis déjà posé la question de ce que je voulais faire, de ce qu'allait être ma vie, tu vois? Et là, je me dis, ben, il faut que je m'en aille faut que je m'extirpe de ce chemin, en fait, assez rapidement. Parce qu'en plus, tu sais très bien que plus t'avances et plus tu vas avoir de raisons de rester dans le système, quoi, tu vois. Tu vas gagner de plus en plus d'argent, tu vas commencer à avoir des charges de plus en plus importantes, à apprécier de plus en plus ton confort, etc. Donc je me dis, en fait, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il faut couper le fil.
C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport au fait que, en fait, c'est arriver à un moment donné, alors que ce soit 30 ans, un petit peu avant, un peu après, mais c'est tu poses en fait un certain bilan en commençant à te poser des questions que tu t'es jamais réellement posées à travers certaines études, comme c'est quand tu fais une école de commerce, par exemple, où est-ce que tu vas. En fait, on te pose jamais réellement la question, on dit ouais, tu veux faire la finance, du conseil, autre chose, mais c'est pas finalement ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux devenir, etc. C'est cette espèce de grosse réflexion de finalement... et qui provoque, j'imagine, la question du sens, en fait, et de finalement, attends, mais waouh, non, ouais, moi je veux pas être CMO, je veux que là, mais en fait, je veux faire quoi de ma vie,
ou à quoi je veux que ma vie ressemble, tu vois, au-delà des questions de plus, peut-être, tu vois, d'être dans l'espace, avoir la nature pas très loin, tu vois, déjà ça cadre un peu la réflexion, quoi.
Et est-ce que tu dirais que finalement, quand toi tu t'es posé cette question, que tu t'es dit waouh, ok, en fait, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire de ma vie, où je veux aller? En fait, la question du sens et la thématique écologique, t'es venue parce que c'était quelque chose qui était de plus en plus présent autour de nous, que petit à petit, toi, t'étais rentré dedans par des gestes ou des petites habitudes de vie, compost et autres, et que du coup, c'est là-dedans que t'as trouvé du sens, mais que ça aurait pu être complètement autre chose en fonction de l'environnement de société, tu vois, peut-être plus le côté un peu solidaire, intergénérationnel et autres. Est-ce que c'est ça qui finalement t'a poussé dedans, ou vraiment quelque chose de fondamental en toi qui t'a dit non, moi, c'est... la nature, c'est mon truc, entre guillemets, et c'est là que je veux aller.
J'avais identifié des thèmes quand je suis partie, parce que je suis partie en me disant je vais partir, je vais pas attendre de savoir exactement ce que je veux faire, parce que sinon ça va prendre trop de temps et puis ça va me prendre trop d'énergie, parce que c'est des choses trop différentes. Mais j'avais déjà commencé à réfléchir et j'avais identifié trois thèmes, c'est toujours d'actualité. Donc il y avait l'écologie, il y avait l'éducation, au sens large, donc aussi en fait comment est-ce qu'on fait grandir les gens, quoi, comment est-ce qu'on partage nos connaissances, nos expériences, tout ça, comment on s'enrichit mutuellement. Et puis le bien-être, ça c'était un truc un peu nouveau que j'avais vraiment pas du tout identifié comme quelque chose me définissant, mais à un moment j'ai envisagé de reprendre des études d'orthophoniste, la médecine chinoise ça m'intéresse depuis super longtemps, j'ai commencé à m'intéresser, enfin j'ai à faire beaucoup de yoga, en fait il y avait clairement une dimension qui, ouais, aujourd'hui je crois qu'on met sous l'ombrelle de bien-être, quoi. Et ce que tu dis, c'est intéressant sur est-ce que c'est quelque chose qui vient profondément de moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient un peu de l'extérieur et que tu prends. J'ai l'impression qu'on est vraiment un produit de notre époque, quoi. Enfin, tu vois, c'est non mais on est, et puis on est perméable en fait à un contexte, tu vois, et donc interdépendant. Enfin, la semaine dernière, je voyais une copine qui du coup fait des études d'acupuncture. Et j'avais eu des nouvelles de la femme d'un copain qui devient qui a bossé dans le luxe ou le semi-luxe, et puis maintenant qui se reconvertit, elle devient psychothérapeute, je crois. Et je me dis, en fait, il y a tellement de gens qui sont en train de se reconvertir dans le soin, c'est tellement, ouais, symptomatique de, tu vois, de la façon dont on perçoit le monde. Parce que, tu vois, ma première réaction, c'est, il y a tellement de monde, ça va être un marché bouché. Et après, je me dis... Bah toi-même, d'ailleurs, je crois que tu vois, t'as aussi cette casquette, en tout cas, ou cette envie de creuser ces sujets. Moi, clairement, c'est un truc qui m'intéresse. Tu vois, récemment aussi le massage thaï, l'ostéopathie, enfin bref. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, c'est aussi beaucoup plus intéressant de dire que c'est symptomatique, quoi. Et on a juste tous envie de prendre soin les uns des autres, mais parce qu'aussi, on a envie qu'on prenne soin de nous. Et puis, je me dis, mais en fait, c'est parce que le monde, il nous détruit tellement, tu vois. Enfin, c'est fou. Mmh. Au lieu de faire rentrer des trucs de soins dans le monde qui existe, c'est un peu binaire à ce que je dis. Bah, tu vois, du coup, on a envie d'être dans le soin, quoi. Mais d'être dans le soin post-destruction du monde, c'est utile, hein, c'est nécessaire pour se régénérer, je pense. Mais idéalement, il faudrait être dans le soin tout le temps, quoi.
Oui, oui, c'est... puis participer à la prévention, vaste sujet aussi.
Ouais.
Si je recolle un peu les bâtons, alors c'est pas l'expression, mais tu m'auras comprise, par rapport à ton parcours à toi et ce moment où tu as décidé de partir et que tu as entamé cette réflexion, est-ce que t'as pas eu, enfin comment tu t'es senti face à cette décision de dire quand même bah, je quitte un CDI dans une boîte qui est quand même plutôt cool, finalement. Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à l'aspect financier, les gens autour de toi, comment ça s'est passé?
Alors, pour partir, c'était dur. Comme je l'ai raconté, c'est une boîte que j'ai connue à ses tout débuts, donc j'avais un attachement assez fort à l'équipe fondatrice, etc., et même à la marque, enfin au projet. Et j'avais vraiment cette image qui me revenait, qui était... J'avais l'impression que c'était une rupture amoureuse, en fait. Enfin, il y avait un côté un peu... Tu vois, parce que le CDI, comme tu dis, le CDI, c'est un truc particulier, tu vois. Si on m'avait dit que je serais à mon compte aujourd'hui, ou enfin, si on m'avait dit, mets-toi à ton compte, j'aurais eu vachement peur, parce que c'est pas du tout ma culture, dans ma famille, tout ça. Le fait que ça soit venu progressivement fait que, bon, voilà, ça fait beaucoup moins peur. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça, et je sais pas comment ça sera demain, et ça me fait pas trop peur. Mais le CDI, c'est un truc, je me disais, effectivement, en fait, si je ne fais rien, je pourrais potentiellement travailler dans cette entreprise toute ma vie. Tu vois, genre si elle ne fait pas faillite, etc., je pourrais travailler toute ma vie. Et je me disais, mais c'est comme quand quand j'ai vu mon boss, je lui ai dit, en fait, je vous aime toujours, mais j'ai plus envie de continuer le chemin ensemble, tu vois, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et il y avait vraiment un côté un peu, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, mais tu sais que c'est pas la personne avec qui tu vas passer ta vie, quoi. Ouais. Et tu te dis, en fait, c'est ce genre de rupture un peu, quoi. Et puis il y avait vraiment ce côté affectif difficile, quoi. Donc ça, c'est pour comment faire. Et bah ouais, c'est un peu difficile et ça s'apparente un peu à ça, quoi, je trouve. Et après, du coup, comment ça s'est passé, la réaction de mon entourage financièrement, tout ça. En fait, j'ai eu de la chance. ça s'est vachement bien passé. Déjà, j'ai eu vachement le soutien de... Enfin, mon... Donc, mon boss a tout de suite compris. Il a été vachement... enfin, donc, compréhensif, super. Il m'a soutenue, etc. Et puis, en fait, quand je l'ai dit aux gens... Et en plus, j'étais un peu... Bah, j'avais décidé justement de ne pas faire semblant. Parce que donc, je t'avais dit que je voulais me mettre en jachère. Et je me suis dit, je ne vais pas raconter de bullshit pour, tu vois, faire semblant et tout. Parce que déjà, ça me faisait chier de le faire. Et en plus, il y avait un brin de provocation, tu vois, aussi. Pour, voilà, tu vois, dire aux gens, ben ouais. Donc, je disais, ben en fait, je ne vais rien faire. Je ne sais pas, tu vois. Et donc ça, en fait, les gens ont super bien réagi. Donc, je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas trop... Peut-être que c'est que en fait ils en ont envie aussi ou je sais pas trop. Et puis côté famille, côté proche, tout ça, ben ça est pareil. J'ai été vachement soutenue. Étonnamment, mes parents, peut-être aussi parce qu'il y avait eu cet épisode où j'allais pas bien, tu vois, avant.
Ouais.
Mais mes parents n'ont pas eu peur, alors que tu vois, je pense que c'est un truc, c'était quand même quitter un CDI, tout ça. Fin... ne pas savoir où tu vas, rien faire pendant un certain temps, c'était un peu étrange quoi. Donc ils ont tout, enfin je sais pas, j'ai senti en fait autour de moi de la confiance, tu vois.
D'accord.
De la confiance et du soutien, surtout. Les gens, je savais que si j'avais besoin de quelque chose, il y avait du monde. Et puis je sentais que les gens me faisaient confiance.
Donc, et tu dis, ouais, tu avais pris cette décision de te mettre en jachère et de rien faire. Mais c'est, enfin, ça s'est concrétisé comment ? Parce que j'imagine qu'à bah, un moment donné aussi, tu n'as plus de salaire. Donc, tu fais comment ? Enfin, tu sais, comment tu vis ? Et puis, cette idée de rien faire, c'était quoi ? C'était pour toi entamer, j'ai envie de dire, un voyage intérieur, si on peut l'appeler comme ça. Enfin, tu avais déjà des idées en tête ou tu t'es juste dit, non, là, je veux juste rien faire, quoi ?
Vraiment, il y avait vraiment un côté, enfin, il y a plus, toujours plus, plein de choses qui se passent dans nos vies et dans nos têtes, hein, mais il y avait vraiment un côté, j'ai pas d'idée, vraiment, en fait, je sais pas, ça pourrait partir là, comme ça pourrait partir de l'autre côté,
ouais.
Et là, en fait, et là, tout de suite, j'ai envie de, tu vois, d'aller me coucher, de me réveiller et de rien avoir à faire, quoi. Et c'est pas quelque chose qui m'angoisse, au contraire, c'est ce dont j'ai envie, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, les journées, elles passent assez vite, quoi. Si t'es pas dans l'angoisse, tout ça, ou dans la volonté de prouver des trucs, tes journées, elles passent assez vite quand tu prends soin de toi, tu vois, de faire attention à ce que tu... Je sais pas, ton petit déj, machin, et ensuite tu... Et après, je te dis, les choses sont venues naturellement. C'est vrai que, tu vois, mais même quand donc j'essaie de me rappeler ce que je faisais à cette époque. Parce que...
Ouais.
Et je pense que c'est vraiment des moments où je faisais rien. Je sais pas, j'ai pas l'impression non plus d'avoir beaucoup, beaucoup lu, machin. J'ai pris des cours de tapisserie. J'avais une vieille chaise retapiser. J'ai pris des cours de tapisserie. Ça m'a pris un peu de temps. C'est un truc concret dont j'arrive à me rappeler. Mais sinon, bah, je sais pas, j'ai dû m'occuper de mes plantes, ouais, bouquiner un peu, mais... pas tant que ça, voir des gens, peut-être tricoter un peu, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois,
C'est quand même pas mal de choses, c'est...
Et puis, ouais, les assos, bah oui, non, mais je veux dire, c'est... Tu vois, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai pas dit, je vais m'occuper de mes plantes, tu vois, enfin, c'est... Non, mais parce que des journées... je travaille sur un projet sous-marin, mais je vous le dévoilerai dans deux semaines, quand, quand j'en ai des fonds, tu vois, enfin, c'est... Non, mais c'est... Et puis la question financière, bah oui, ça c'est sûr que quand tu dis je veux mettre en jachère, il faut que tu puisses prévoir ça, donc de combien d'argent tu vas avoir besoin et tout ça. Bah là, j'avais aussi eu le temps de reconstituer mon épargne, tout ça. Enfin, tu vois, je savais que je pouvais me le permettre pendant quelques temps, quoi. Et en fait, de toute façon, naturellement, je sais pas, ça a dû durer à peu près un an, mais donc. En fait, avant ça, bah, j'étais, je pense, un peu dans un cycle de nouveau qui était plus de l'apprentissage et du bénévolat. Donc, j'étais déjà... Moi, j'apprenais des trucs. Bah, j'étais en train de me former, en fait, pour cette reconversion qui n'avait pas été programmée, finalement. Et puis, j'étais déjà aussi dans le partage gratuit, enfin, sur mes propres fonds, tu vois. Mais sinon, tu vois, et après, ça s'est venu assez naturellement de commencer à le...
Justement, comment ça s'est organisé un petit peu, tu dis, ces rencontres, ce partage, tu as rapidement évoqué le mot association avant que je te coupe. Tu vois, pendant toute cette année où tu t'es formé finalement, parce que j'imagine que ton objectif c'était pas de te former à la base. En fait, comment est-ce que ça s'est passé?
Ouais, mais justement, je pense que c'est pour ça que ça a marché entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais j'avais pas d'objectif, on va dire fonctionnel ou utilitaire.
Ouais, tu vois. D'accord.
C'est ça que j'entends par laisser voir. Enfin, voir, laisser venir ce qui vient, quoi, et te laisser guider par, en fait, c'est par l'envie. J'ai envie de faire ça.
Okay.
J'ai envie de faire ça et pour la bonne raison, tu vois, parce que ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a à faire en ce moment, et que c'est un bon usage de mon temps, tu vois. Enfin, je post-rationalise, tu vois, mais bon, en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est encore une fois, de se laisser aussi porter par des rencontres et des opportunités. Mais comme je l'avais fait, en fait, quand j'ai commencé à bosser dans cette start-up, quoi.
Et juste...
C'était un moment où il y avait d'autres choses qui résonnaient en moi.
Et justement, par rapport à ces rencontres, est-ce qu'il y a eu une vraie différence dans ton mode de vie aussi, au moment où tu as quitté la boîte? Est-ce que tu voyais toujours autant tes collègues, les mêmes personnes? T'as rencontré de nouvelles personnes, et de quelle manière?
Alors ouais, j'ai rencontré des nouvelles personnes, c'est sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communauté qu'il y avait autour d'assauts comme la fresque du climat ou les shifters, etc. Je crois que j'ai pas parlé des greniers d'abondance, mais qui est une asso sur le système alimentaire qui travaille à des questions de transition alimentaire pour aller vers un système plus soutenable et souhaitable, on va dire, sur les questions précises de l'alimentation. Et en fait... Et pour reboucler aussi avec ce que je disais avant, je me suis mis un moment à donc bosser avec ces assos, enfin à aller à la rencontre de ces assos parce que ça m'intéressait, que j'avais envie de donner un peu de mon temps. J'y suis restée parce qu'en fait j'apprenais énormément, parce que j'ai rencontré des gens, et du coup j'ai commencé à m'investir sur des projets, et en fait j'avais le sentiment de bosser déjà, ouais, au bout d'un moment, parce que c'est vrai que comme tu dis, je parle beaucoup des associations. Je connaissais pas trop le monde associatif avant, et puis j'avais une vision un peu comme les vieilles assos, tu vois, un peu, ou les ONG, tu vois, enfin, un truc un peu plan-plan machin et tout. Et là, en fait, ça, c'est là, il y a, donc je sais pas, hein, peut-être que j'avais une vision erronée, ou peut-être que ça, c'est des assos un peu nouvelle génération. Mais clairement, il y a des méthodes de travail hyper, hyper efficaces, des volontés, des motivations, des éthiques de travail, des capacités de travail énormes, une collaboration géniale. Et en fait, j'avais de nouveau en fait une stimulation intellectuelle qui aurait été, qui était égale à ce que tu as quand tu bosses et que ça se passe bien, quoi.
Et alors, et c'est génial que tu parles de ça, parce que je me demandais si aussi le côté changement ou besoin de voir autre chose, et par rapport à ton ancien travail, c'était aussi un manque de stimulation intellectuelle que tu pouvais ressentir à ce moment-là. Est-ce que, ou pas du tout, est-ce qu'au final ton travail était toujours tout aussi intéressant?
Si, je pense qu'il y a ça, et après, mais elle venait du fait que j'avais changé. Parce que tu vois, je me disais... mon boulot, en fait, j'avais quand même beaucoup de place pour la créativité, beaucoup de liberté et d'autonomie. Ça venait de la particularité de mon poste. Donc, j'étais dans le marketing, la marque. Enfin, il y avait un côté où... Mais c'est juste que j'arrivais plus à parler du fond, en fait.
D'accord,
donc,
ouais.
Tu vois, il y avait une corde cassée, en fait. Donc j'avais beau avoir tout ça dans la coquille et la forme, etc., on va dire l'échafaudage, tout était bien, le squelette, je veux dire, mais en fait il y avait un truc au fond qui était cassé, quoi.
Ouais, ça résonnait pas, donc intellectuellement c'était difficile de aussi être, ouais, suffisamment curieux, de vouloir creuser
oui exactement, que ça t'habite, quoi. Et donc et puis en plus quand c'est le cas, moi j'étais assez stricte sur la séparation entre la vie privée et la vie pro.
D'accord.
Tu vois, quand il y a un sujet qui te prend au trip, entre guillemets, ou enfin qui t'importe vraiment, tu perçois cette scission vraiment différemment. Tu vois, je bien sûr, il faut toujours, là je cherche toujours aussi un équilibre entre vie pro, vie perso, enfin temps pro, temps perso, entre guillemets, mais sauf que la question est très différente, quoi. Ton regard sur la question est très très différent.
Et même ce que, alors tu l'as rapidement évoqué, mais tu disais, en fait, j'avais l'impression de déjà travailler. Même ce qu'on met derrière le mot travail et oui. professionnel évolue, j'imagine.
Puisque... Mais je travaillais déjà, tu vois, d'ailleurs, enfin, c'est sûr. Le mot travail, c'est... Ouais, et puis le fait de découpler le travail de ton gagne-pain ou ton argent, enfin, tu vois, ils sont souvent couplés, là, tu vois, ils le sont, mais oui, il y a des trucs qui subventionnent d'autres choses, il y a des moments, bon, ben, c'est... Enfin, ouais, c'est tu vois, la question climatique, en soi, elle est intéressante, elle est nécessaire, enfin, la réflexion climatique, mais je trouve que ce qui est passionnant, c'est que ça a permis de tirer des fils de tellement d'autres trucs sur le sens, le fondement de notre système et les fondements culturels, anthropologiques, économiques. Et aussi, je me dis parfois, donc je reviens aussi sur la question du regret, où je me dis, est-ce que je regrette un peu de savoir ça ou d'être né maintenant, machin. Et je me dis, non, parce qu'en fait, je me dis limite, si j'étais né il y a 20 ans, et peut-être que j'aurais pas justement je serais trop engoncée dans le système pour que ça m'atteigne à ce point-là ou que ça m'atteigne aussi vite. Là tu vois, je te dis, je parle des jeunes diplômés que je rencontre aussi, enfin il y a un côté le truc c'est devenu tellement insupportable que au moins je suis pas dans la complaisance, tu vois, je peux pas me dire parce que bon, on va pas se leurrer, on était du bon côté de la barrière, quoi. Tu vois, c'est bizarre de se rebeller contre un système dont tu maîtrises tous les rouages, ou au moins pour lequel tu es vraiment bien parti. J'arrive pas à faire ma phrase, mais tu vois.
Mais au niveau individuel, oui. C'est... Mais est-ce que, après, on se le disait, est-ce qu'il n'y a pas le côté bien-être, tu vois, de ce qu'on appelait, qui est aussi provoque chez certaines personnes, en tout cas, ce côté. Pas rébellion, mais volonté de faire autrement. Tu vois, toi, tu as pris du temps parce que tu étais fatigué. Y a plein de personnes qui font des burn-out. Et puis après, au-delà, même si on ne fait pas de burn-out ou autre, il y a la question, en fait, en fait, j'ai quand même l'impression de me pourrir la vie ou de me fatiguer pour quelque chose. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine?
Ouais. Ce truc qui est limite la même réflexion qu'un ouvrier pouvait se faire au 19e siècle, enfin ce que j'imagine qu'un ouvrier du 19e aurait pu se faire. Mais enfin tu vois, oui, ce truc d'être un peu un pion dans la machine et de se dire j'entretiens quelque chose qui me dépasse et finalement qui nous apporte pas de bien-être, quoi.
Et toi, par rapport à ça, justement, comment est-ce que tu organises un petit peu ta vie aujourd'hui? On parlait du travail bénévole, pas bénévole, du fait d'être indépendant. Comment ça s'organise? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre?
Comme j'ai rien prémédité, là, je vois un peu comme les choses viennent. Là, actuellement, enfin depuis quelques mois, j'ai beaucoup de mal à faire du bénévolat. J'en fais beaucoup moins qu'avant. Je pense pour des questions de temps, parce que j'ai une mission qui me prend du temps. Finir le bouquin, ça m'a pris aussi beaucoup de temps et d'espace mental. Il y a aussi peut-être un côté aussi où je suis moins en phase d'apprentissage aussi. Donc peut-être que mon bénévolat, il va évoluer vers d'autres choses. Mais donc entre le manque de temps et le fait que peut-être que je suis à une autre phase. Je reçois moins, peut-être en animant des ateliers de bénévoles, ou comme j'ai moins d'espace en plus, voilà. J'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment j'en fais moins parce que j'ai moins de temps, mais je sais pas trop comment dans 2 mois ça peut changer.
Et justement, tu parles de dans 2 mois et un peu des prospectives sur l'avenir. Comment est-ce que est-ce que du coup, maintenant, tu te laisses toujours un peu guider comme ça par rapport aux rencontres, à ce qui va advenir? Ou est-ce que tu essaies de planifier les prochains mois ou prochaines années? Je ne sais pas.
C'est sûr que je me laisse toujours guider par les rencontres et les opportunités. Je pense que ça, c'est la base. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de... donner aussi une impulsion. Alors c'est pas de la planification, mais donc ça fait plusieurs années que je pense à quitter Paris et que je le fais pas, même si j'y suis de moins en moins et que voilà, je suis plus du tout de la même manière que j'y étais il y a 10 ans. Mais j'ai du mal à le faire, quoi. Donc enfin, il y a aussi le fait de se laisser guider par les rencontres, c'est bien aussi, mais il y a un moment aussi, il y a une sorte, je sens qu'il faut que je donne une impulsion, quoi. Et encore une fois, je pense que quand je raconterai ça dans 5 ans, ce sera très facile de dire, voilà, à un moment, je fais ça, et ben là, je suis dans le moment avant où ça paraît très long, où je me dis, bon, bah, ok, par quoi je commence, où est-ce que je vais, comment. Donc là, j'en suis un peu à ce stade où c'est ça, il faut un moment, il faut y aller, quoi. Il y a un moment un peu quand même de courage, quoi. Un moment, enfin, c'est comme quand t'es monté en haut du plongeon, quoi. Ouais. Du plongeoir, pardon. c'est plongeoir qu'on dit, hein.
Ouais, plongeoir, je crois, ouais.
Enfin, tu vois, il y a un moment où t'es là, quoi. Un moment, c'est un saut dans l'inconnu. Enfin,
ouais.
Je sais pas. Tu vois, il y a un moment de confiance où tu lâches, quoi, tu vois. Ou de folie, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un moment un peu de tu lâches, quoi.
Bien sûr. Et ça me fait penser à quelque chose. Je t'ai pas posé précisément la question, mais elle est importante pour moi par rapport au. Et ça fait écho à ce que tu vis maintenant, hein, finalement, puisque se dire, OK, comment on s'organise, etc. Au moment où tu t'es lancé toujours et où tu as pris cette décision, au-delà des associations, du soutien familial que tu as pu avoir, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as fait, toi, une introspection intérieure et de quelle manière, tu vois? Est-ce que tu t'es mis à des pratiques particulières? Est-ce que tu es allé voir un psy? Est-ce que tu es allé voir un. Tu as fait un bilan de compétences? Est-ce que tu es passé par des organisations d'accompagnement? Enfin, est-ce que il y a des choses qui se sont passées comme ça? Quel a été un peu ton parcours?
Ouais. Alors, la pause que j'avais faite, la pause que j'ai faite, là, le signe avant-coureur, donc ça allait vraiment pas très bien. Là, je suis allée voir une psy. C'était la première fois que je faisais ça, on m'a conseillé, j'ai trouvé ça bien, ça m'a aidé, je pense, de parler, quoi. Enfin, je sais pas de quelle manière, comment, je sais pas comment, trop comment expliquer, mais ça m'a fait du bien. Après ça, est-ce que j'ai été accompagnée? Ça a coïncidé aussi avec un moment où, effectivement, je me suis un peu plus intéressée à la méditation. J'en ai pas du tout fait, enfin beaucoup, j'en fais toujours pas beaucoup du tout, mais je comprends les principes, et puis voilà, j'ai quand même essayé de, bah justement, d'en injecter un peu dans mon quotidien, plutôt que de faire des retraites comme ça, très intenses, une fois par an, un truc comme ça, non, bah plutôt de changer un peu mon mode d'être tout le temps, quoi. Bah, notamment, j'ai arrêté d'écouter de la musique dans la rue. Enfin, avant, j'allais tout le temps. C'est un peu anecdotique, hein. Mais j'ai arrêté. Et puis, en plus, j'ai perdu mon iPod à un moment, mais sinon, j'en aurais récupéré un autre. Mais en fait, j'ai arrêté d'écouter de la musique en permanence, quoi, parce qu'avant, quand je sortais, j'avais tout de suite un casque sur les oreilles, etc. Et donc, voilà, je sais pas trop. Sinon, j'ai pas l'impression de m'être fait accompagner par des gens en particulier ou des organismes.
Mais toi, tu t'es mis un peu une nouvelle méthodologie de vie. Alors, je t'en parle aussi parce que dans le livre, à un moment donné, tu parles de manger en pleine conscience.
Ouais.
Et ça me parle beaucoup parce que, comme tu l'as dit brièvement, j'ai fait une formation en naturopathie.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je suis un peu passé par là aussi avec. Je fais pas beaucoup de méditation, mais avec essayer en fait de changer son mode de vie avec des choses qui, comme tu le dis, peuvent paraître toutes bêtes, mais plus écouter de musique dans la rue. Prendre son temps et être conscient de ce qu'on mange, supprimer toutes les notifications, par exemple, de son téléphone portable. Tu as des choses un peu toutes bêtes comme ça, en fait, mais qui te permettent de prendre des temps pour toi, des temps de vide, des temps d'interrogation, et qui t'amènent en fait à la réflexion, plus que d'être en fait toujours occupé et d'avoir en fait un espace de cerveau disponible très faible.
Ouais, ben carrément, j'ai complètement là-dedans, ce truc de méditation, donc je suis allée une semaine, donc je sais plus à quel moment c'était, au village des Pruniers, et j'ai trouvé ça super, en fait, cette idée de mettre un peu de méditation, enfin de pleine conscience dans, ça a l'air vraiment très bête, hein, mais de mettre de la pleine conscience dans plein de choses que tu fais et d'être beaucoup plus présent. Donc ça, ne plus écouter de musique, tout ça. Et puis, en fait, ouais, je crois beaucoup aux petits trucs, aux petits changements, en fait. Probablement, justement, là, j'apprenais dans les fondements de l'ostéopathie que les petits mouvements gouvernent les grands mouvements. Et ben, en fait, peut-être que les petits changements gouvernent les grands changements.
Lanane, on arrive à la fin de cet entretien et je voulais savoir si tu avais un message ou un conseil pour ceux qui se posent des questions, qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas forcément par où commencer ou qui ont besoin de retour d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais dire ?
C'est pas facile. De rencontrer des gens qui vous inspirent et de s'entourer de gens positifs, enfin dans le sens où c'est voilà qui vous font avancer quoi. Donc peut-être écouter Oser, c'est bien. Écoutez, ça a l'air d'être de la pub, mais voilà. Et puis il y en a plein des podcasts en ce moment géniaux qui font ça. Donc là c'est sur le changement en particulier, mais oui, des aventuriers. Les baladeurs, par exemple, c'est génial, ça donne une respiration, puis il y a des choses qui sont belles, quoi. Ça donne envie de d'aimer le monde. Ouais, s'entourer, bien s'entourer, je trouve.
C'est quelque chose qui revient assez souvent, ce message ou conseil de bien s'entourer en fait, et de personnes positives. J'aimerais juste peut-être creuser un peu ça avec toi si on a encore quelques minutes, parce que je pense que c'est effectivement fondamental pour passer à l'action ou passer à l'acte ou en tout cas le faire de manière bienveillante. C'est de trouver des gens qui finalement vont plus t'aider, sont dans une même dynamique et te permettre d'avancer. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Comment, quand dans notre famille, nos amis ou notre entourage, finalement, on se sent un peu seul face à ces questions? Par où? Comment est-ce que toi, tu as réussi à bien t'entourer, en fait?
Pour ça, Internet, c'est pas mal quand même. Je veux dire, si on n'a pas de soutien ni dans les proches, ni dans la famille, ni dans le milieu pro... justement écouter des podcasts et puis après tu vas dire que je répète encore le mot association, mais ça permet de rencontrer des gens qui en fait ouais c'est des communautés qui sont regroupées autour de préoccupations particulières quoi, ou d'une intention particulière généralement, en plus qui ont une attention aux questions d'inclusivité ou de gouvernance et du fait d'embarquer plusieurs personnes dans le projet. Je ne sais pas trop comment... Et après, je pense que peut-être qu'il faut tirer les fils, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on rencontre quelqu'un ou dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, en fait, dans une conversation, dans une rencontre, dans une lecture, de tirer ses fils, en fait. Et après, il y a plein de choses qui viennent. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi.
Et toi, tu as écrit à des gens, par exemple, je sais pas, tu as lu un bouquin, tu as écrit un podcast, tu as vu un post, tu t'es dit, allez, je leur envoie un mail, je leur envoie un message pour les rencontrer. Tu as fait ce genre de démarche-là ?
Ouais, je crois. Ah oui, alors, enfin ça, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de la stimulation intellectuelle ou le fait que quelque chose soit cassé, mais je pensais aussi à la confiance que ça donne, je trouve, de se réaligner, en fait, de trouver un sens beaucoup plus profond ou beaucoup plus personnel à ce qu'on fait, c'est que, ouais, enfin, là, pour le coup, j'ose beaucoup plus, enfin, quand quelqu'un m'intéresse, que je trouve un moyen de le contacter, je le contacte, quoi. Et la plupart du temps, ça marche, ils répondent. Après, voilà, il se trouve que j'ai pas envie de contacter Rihanna ou Emmanuel Macron, donc en fait j'écris aux gens et ils me répondent généralement. J'utilise beaucoup LinkedIn notamment, par tous les moyens, et en fait j'ai beaucoup moins de réticence ou de réserve qu'avant pour ça, mais parce que je pense que je suis portée par le truc, quoi, et donc je trouve ça intéressant. Et à aussi réciproquement, y a pas mal de gens à l'issue d'ateliers qui me disent « Ah, est-ce qu'on peut s'appeler, machin ?» Notamment aussi des gens qui ont envie de quitter leur boulot, qui se posent un peu des questions ou de changer de choses dans leur boulot. Et je leur réponds toujours parce que ça me fait plaisir. Je ne sais pas trop ce que j'ai à leur apporter parce que je... Voilà, mon histoire, elle est très personnelle et voilà, mais je leur réponds toujours. Donc ouais, contacter les gens quoi, qui vous inspirent.
Génial. Bah, merci beaucoup, Lanane, pour ce témoignage et bravo encore pour ton bouquin. Vraiment, voilà, si vous posez des questions sur l'empreinte carbone, sans geste pour réduire son empreinte carbone, je ne pourrais que le recommander. Il est vraiment top. Donc, merci à toi et puis bah, bonne fin de journée.
Merci, JP. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez !